Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui me tient énormément à cœur. Il a fait sensation au dernier festival de Cannes puisqu'il a eu le prix Un certain regard. On va parler de How to Have Sex de Molly Manning Walker.
You think she's all right?
Are you jealous?
I'm not sure you've got much choice at this point.
Laura, what happened
last night? Tell us.
Besties for life, yeah?
It's fine.
No, it's not.
Afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Sky et M s'offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes, cuites et nuits blanches, en compagnie des colocs anglais rencontrés à leur arrivée. Pour la jeune Tara, ce voyage de tous les excès a la saveur électrisante des premières fois jusqu'au vertige. Face au tourbillon de l'euphorie collective, est-elle vraiment libre d'accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle? Alors c'est un titre qui, bien évidemment, a fait beaucoup s'interroger. Voilà, c'est vrai que pour ceux qui ne l'ont pas vu à Cannes, comme moi, How to Have Sex, c'est vrai que c'était un petit peu, je trouve pas exactement le terme, mais particulier, spécial comme titre, voilà, ou dans le sens où, enfin moi je savais pas forcément à quoi m'attendre en allant voir ce film, hein, voilà, je me disais que ça pouvait être autant une comédie voilà un peu décalée et libérée voilà sur le sexe que bon bah un film d'après bon, c'est ce que j'avais compris voilà avec les retours une fois que le film avait été vu mais un film effectivement assez engagé sur ces questions-là et donc c'est ce que le film est. Je préfère donc commencer par un petit disclaimer. C'est un film extrêmement éprouvant, c'est-à-dire que j'ai énormément aimé le film, voilà, et il y a eu en fait plein de séances organisées par MK2 avec la réalisatrice, et c'était des séances en plus événements, j'ai envie de dire, voilà, où il y avait des discussions super intéressantes après avec la réalisatrice sur plein de thèmes différents, voilà, sur, je sais plus exactement, je crois qu'il devait y avoir sur le féminisme, hein, forcément, bref, mais en tout cas, il y avait des discussions qui, sur le papier, en fait, avaient l'air extrêmement intéressantes, juste, en fait, le film m'a mis dans un état tel que j'ai pas tenu à le revoir, je sais pas si je le ferai. Voilà, parce que c'est un film que j'ai découvert en projection presse. Il y a beaucoup de films que je découvre en projection presse que je vais revoir au cinéma après. Lui, très sincèrement, je sais pas. Je sais pas parce que, pour être honnête avec vous, je suis sorti de la salle de projection, j'étais assez fébrile, tellement le film est puissant en fait. Voilà. Et pourtant, et c'est ça qui est fou en fait et qui m'a aussi fasciné avec ce film, c'est que c'est un film qui est extrêmement puissant, mais qui paradoxalement, je trouve, est très dans la retenue, se retient énormément. Notamment, voilà, c'est quand même assez ironique. Bon, on va y revenir, hein. Mais c'est vrai que c'est un film qui s'appelle How to Have Sex. Il y a aucune scène de sexe dans ce film, voilà, en tout cas pas dans mes souvenirs, hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui est montré. Et en fait, bon bah le titre pour ceux qui n'ont pas vu le film déjà, allez le voir, voilà, clairement. Bref, mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça se rapporte au personnage principal, le personnage de Tara, qui en fait, du coup, à l'époque où bah, elles font ce voyage, pour le coup, elle n'a pas connu d'expérience sexuelle. Et bon, bah, globalement, ses amis lui disent, bon, bah, c'est un peu maintenant ou jamais, quoi. Enfin, voilà, c'est là, on part quand même dans un autre pays, bref, où il n'y a que des jeunes comme nous, où tout le monde est vachement là pour se bourrer la gueule et clairement bah, faire ce qu'ils ont à faire. Donc tu vas ken en fait. Enfin voilà, c'est globalement ce que ses amis lui disent. Effectivement, c'est. Voilà, il y a cette injonction-là. Pour le coup, qui est bien évoqué dans le synopsis, je trouve, par le « est-elle vraiment libre d'accepter ou de refuser chaque expérience qui se présentera à elle ?» Voilà, on parle de tourbillon, de l'euphorie collective, et je trouve que c'est assez bien défini. Dans le sens où, ouais, on retrouve une pressurisation qui est assez importante de la part de son groupe, voilà, mais pas seulement de la part de son groupe, hein, de la part aussi de l'autre groupe, des personnes qu'elle rencontre, etc. Et en fait, je pense que les seuls moments où on arrive à se sentir, comment dire, pas à l'aise, mais enfin, ou bref, on sent qu'elle est, que ce personnage de Tara est apaisé. Voilà, et où effectivement nous en tant que spectateurs on n'est pas mal à l'aise, on se dit pas il y a un truc qui cloche. C'est vraiment au début du film, vraiment juste quand elles arrivent et que elles vont se baigner, voilà, et c'est plutôt, je trouve, révélateur, parce que littéralement, bah, quand on filme la mer, on voit l'horizon, voilà, il y a quand même de quoi se projeter, etc. Et en fait, c'est con à dire, mais c'est un espace qui est grand ouvert, et plus le film avance, je trouve, plus ça va s'enfermer, voilà, s'enfermer dans cette petite chambre d'hôtel de location, s'enfermer dans des endroits, s'enfermer dans des idées, des concepts, perpétuer aussi des concepts masculinistes et des jeux absolument dégradants, voilà, pour les femmes, des jeux entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, mais des trucs en mode Spring Break, tout ça, voilà, qui sont super dégradants pour les femmes, et donc ouais, je trouve que c'est pas physique, voilà, si c'est pas physique par rapport à une pièce ou quoi, je trouve que l'enfermement passe beaucoup dans le mental, voilà, parce que plus on avance et plus même, voilà, le personnage de Tara va être bloqué parce que, enfin, il se passe des trucs horribles dans ce film, et en fait, ouais, plus ça avance, moins elle a de solutions pour s'en sortir, et plus elle est dans l'impasse, et c'est une chute qui est horrible à regarder, parce que c'est un personnage qui n'a strictement rien demandé, et qui pourtant, ouais, petit à petit va chuter, quoi, entre guillemets. C'est, j'ai pas envie de dire que c'est un rise and fall, mais voilà, il y a des figures au cinéma où bon, bah, la chute est intéressante parce que c'est des figures assez complexes, et bon, on se dit, ouais, bon, c'est un peu logique que la personne en arrive là, je sais pas quoi et tout. Bref, ici, c'est juste vraiment une personne qui se mange ça gratuitement, et en fait, gratuitement, bon, dans le film c'est gratuit, maintenant d'un point de vue scénaristique, ce qu'elle se mange est entièrement justifié, et c'est, je pense, le principal point que je ferai du film. C'est un des films qui comprend le mieux le patriarcat et tout ce que ça implique. Quand je dis tout ce que ça implique, je rentre bien évidemment la posture de domination des hommes, la culture du viol, l'injonction au masculinisme, enfin voilà, c'est toutes ces genres de choses, voilà, qui en fait sont dans le patriarcat, hein, clairement, qui, si la société n'était pas patriarcale, bon, bah, ne serait pas, probablement pas existant, voilà, mais il se trouve que malheureusement nous sommes dans une société patriarcale, donc c'est des choses qui existent. Et en fait, la société, voilà, qui est aussi, mine de rien, hein, dans l'hypersexualisation des femmes, hein, voilà, on a beau dire ce qu'on veut, c'est une réalité, voilà, qui voilà, découle aussi en partie du patriarcat. Voilà, il y a cette hypersexualisation, pardon, des femmes, et pour le coup, il y a aussi cette injonction à la sexualité qui est de plus en plus fréquente, parce que de plus en plus tôt, enfin, maintenant c'est l'image qu'on a, voilà, qu'il faut faire ça tôt, etc. Puis c'est vrai que les réseaux sociaux aident pas beaucoup là-dessus, donc effectivement, ouais, il y a cette injonction à la sexualité qui, donc, bah, déjà va la pressuriser, et en plus elle va tomber dans un endroit où le patriarcat et le justement cette posture de domination de l'homme va être exacerbée de partout, donc elle est déjà pressurisée par ses propres proches, et en plus son environnement extérieur la pressurise aussi. On est vraiment, mais angoissé, c'est un film qui est angoissant sur tout son long, c'est vraiment horrible. Enfin, c'est un film qui est pas agréable à regarder. Voilà, comme je disais, qui est super, hein, mais qui est pas agréable à regarder. Voilà, et il y a, moi, un des personnages au-delà de Tara que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai plus son nom, si c'est le personnage de Paddy, voilà, qui est globalement le garçon qu'elle repère un petit peu. Bon. Enfin, je vais pas dire qu'elle tombe amoureuse de lui, mais bref, il lui tape un peu dans l'œil. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ce personnage, et je trouve que c'est pas beaucoup montré au cinéma, vraiment, et ça devrait plus l'être, parce que c'est une réalité, mais énorme, vraiment une réalité énorme. Et pour le coup, en termes de représentation, c'est assez vide, mais c'est de montrer que le patriarcat cause du tort aux hommes aussi. Voilà, et ça, c'est pas assez montré. Parce que, en fait, on se rend compte que c'est un mec qui, fondamentalement, n'est pas méchant, hein, mais qui va, en fait, juste devenir un gros con parce que, justement, il essaye de coller à une image, parce que, justement, il essaye de coller à, au cliché du masculinisme, etc., et à ce que la société pense que ce que doit être un homme. Voilà. Et pour le coup, c'est pour moi, hein, j'ai la conviction pure, et je pense que par définition, c'est le cas, ça fait partie, bien évidemment, des facettes qu'incarne le patriarcat, cette injonction au masculinisme, hein, voilà, cette attente de ok, un homme ça doit être ça, et c'est pour ça que bah, moi depuis toujours à titre personnel, hein, je me suis senti en décalage par rapport avec cette société, parce que pour le coup je correspondais pas du tout aux standards et je ne voulais pas y correspondre. Bref, ça c'était assez personnel, mais bref, voilà, pour vous raconter un peu pourquoi je vous fais ce propos là et pourquoi c'est dans mon système de croyance. Mais donc effectivement, ce mec là aussi, je veux pas dire qu'il est victime, parce que il y a toujours un libre arbitre, voilà, il peut toujours ne pas agir de la manière dont il fait, mais en fait, profondément, on voit que voilà, c'est aussi une victime du patriarcat. Et en fait, c'est super intéressant parce que c'est vraiment un truc qui est sous-représenté au cinéma. Et c'est bien que, bah justement, on commence à aborder ces thèmes-là, le patriarcat, la culture du viol, etc. C'est super. Mais pour le coup, de le faire avec toutes les facettes comme ça, je sais pas si j'ai déjà vu ça avant. Et pour le coup, c'est pour ça que je dis que c'est un des films qui comprend le mieux le patriarcat. Parce que pour le coup, ça a des conséquences qui sont à la fois donc sur les femmes, qui sont bien évidemment, je suis pas en train de dire que les hommes c'est victimes ou quoi, bien évidemment les principales conséquences sont sur les femmes, mais aussi sur les hommes, voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais qui pour autant est une réalité, voilà. Donc juste l'avoir représenté dans ce film, bref, super. Mais ouais, pour conclure là-dessus, en essayant de ne pas me répéter, voilà, c'est un des films les plus brillamment écrits sur le sujet, je pense, et ça fait du bien, enfin ça fait du bien, non, façon de parler, comme j'ai dit, c'est un visionnage très éprouvant, mais de voir une vision aussi juste et aussi proche de la réalité et aussi globale dans son approche, je trouve que ça fait énormément de bien à titre personnel, voilà, et juste pour moi, ouais, par définition, ça a tout compris à ce qu'est le patriarcat, et c'est pour ça que le propos est aussi puissant et juste. Et justement, bon, on parlait de ces personnages, hein, de Tara et Paddy, mais comme je l'ai dit, ils sont intégrés à un groupe, voilà, c'est-à-dire que c'est pas des personnages qui disent bon, ouais, je vais partir en vacances tout seul, etc. Ils partent entre amis. Et donc c'est vrai que j'aurais moins de remarques à faire pour le groupe de Paddy. Par contre, le groupe de Tara, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un vrai prisme de sororité qui est développé, voilà, mine de rien, même s'il y a cette pressurisation, etc., il y a quand même un excellent prisme de sororité, et je trouve notamment vers la fin, enfin je sais plus si c'est la scène finale, mais une des scènes finales, je pense notamment aussi à ce moment où, sans parler de son groupe d'amis, hein, où Tara part d'une soirée parce que bon bah voilà, et elle se retrouve, il me semble que c'est dans un bar où elle rencontre littéralement une femme qui, enfin une femme, elle doit avoir son âge, hein, je pense, qui lui dit ouais, mais ah mais viens, tu peux dormir à la maison, je sais pas quoi, et qui la fait dormir, bon, elle la fait pas dormir, c'est elle qui s'endort sur un matelas gonflable, mais elle lui propose un lit d'ailleurs, mais bref, mais en gros ouais, qui veille totalement sur elle alors qu'elle se connaissait pas du tout, voilà, et je trouve qu'il y a énormément d'exemples de sororité dans ce film, et qui font du bien aussi, voilà, encore une fois, c'est vrai que je dis que c'est très éprouvant à regarder, mais il y a un certain nombre de choses qui font du bien, il faut être honnête, et c'est des choses qu'on comme les représentations totales et globales du patriarcat, qu'on ne voit pas beaucoup, voilà, enfin qu'on ne voit pas beaucoup ces derniers temps, bien sûr ça s'est démultiplié et c'est tant mieux, mais c'est un truc tout bête, mais juste ça fait du bien, voilà, de le voir fait et de le voir aussi bien fait, parce que c'est pas le cas pour tous les films, et ça c'est un film qui parle d'un sujet extrêmement tricky, voilà, on y reviendra après, hein, mais il y a quand même des choses extrêmement graves qui se passent dans le film, voilà, je mettrai un trigger warning pour les gens qui veulent pas écouter, Mais c'est malgré les sujets extrêmement sensibles et graves qu'aborde le film, ça le fait sous une forme déjà qui est totalement déroutante en utilisant les codes du Spring Break, les couleurs, les musiques extrêmement populaires pour au final venir parler derrière de patriarcat, du problème de la société, voilà, de toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que détourner les codes du Spring Break pour faire ça, c'était extrêmement fort, voilà, et d'ailleurs la photo est sublime, je ne l'ai pas encore dit, mais la photo est sublime, justement parce que ça utilise les codes du Spring Break pour arriver à ses fins, bref, mais oui, donc en plus on a ce détournement-là, mais c'est surtout que c'est des sujets qui sont extrêmement maîtrisés, voilà, c'est ça la vérité, si le film est aussi excellent, c'est que les sujets, la réalisatrice les maîtrise, mais parfaitement, voilà. Et ça fait du bien de voir quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Je suis pas convaincu que beaucoup de monde aurait pu faire ce film, sincèrement. Je pense qu'il est ce qu'il est parce que c'est elle qui l'a fait et c'est tant mieux. D'autant plus que c'est un premier film, ce qui est vraiment impressionnant. Et donc je vais mettre maintenant un trigger warning pour tout ce qui est viol et agression sexuelle parce que c'est des sujets du film. Voilà, donc si ça vous touche particulièrement, peut-être essayez d'éviter cette partie parce que ça peut être vraiment compliqué pour vous. Bref, de toute façon, je compte pas développer derrière, hein, c'est ma dernière partie, donc vous ne louperez rien du podcast. Mais toujours est-il que, effectivement, oui, c'est un film qui va parler de viol. Ça va spoiler aussi, du coup, hein, je préfère le dire. Mais qui, par rapport, oui, à ce personnage de Tara, va parler de viol. Et voilà, c'est vrai que je me rends compte. Enfin, en fait, j'étais tellement... Bref, le film m'a tellement roulé dessus sur le moment que c'est vrai que c'est pas quelque chose non plus que j'avais conscientisé, que j'avais relié. Mais effectivement, sa première expérience sexuelle, c'est un viol. C'est horrible. C'est horrible. Bref, c'est absolument horrible. Je parle de Tara, bien évidemment. Je sais pas si je l'ai précisé. Mais il y a cette scène-là, du coup, qui est faite sur la plage. Voilà, en plus, hein, du coup, nouveau détournement du Spring Break, hein, normalement sur la plage en fin de soirée. Bon, bah, c'est vrai que c'est utilisé pour montrer des gens qui s'embrassent, mais de manière consentante. Hein, voilà. Et là, pour le coup, c'est carrément un rapport sexuel non consenti. Donc, voilà. Et les scènes qui suivent, en plus, bref, sont horribles et il me semble que je vais d'abord développer mon point avant de revenir sur l'idée que j'ai eue. Et en fait, c'est filmé d'une manière qui est absolument mais minimaliste. Le viol n'est presque pas montré, en tout cas en tant que tel, on est vraiment focalisé sur elle, la caméra est sur elle, on ne voit pas le viol, on tombe pas dans un espèce de voyeurisme, etc. Et c'est pour ça que, voilà, c'est vrai que le How to Have Sex, c'est quand même une question, je pense, c'est une question, donc voilà, c'est ça le truc, je pense que c'est aussi là, bien évidemment, pour faire réfléchir. Half-Life Sex, évidemment pas de cette manière-là, clairement, mais c'est aussi, bref, une manière, voilà, chacun de réfléchir, de se responsabiliser. Et voilà, quoi, juste ce petit détail aussi, il me semble que j'ai vu le film il y a un mois quand même, hein, donc c'est un peu ancien, mais il me semble qu'elle reste bloquée sur le fait qu'elle a du sable partout. Dans cette scène-là, et encore une fois, je trouve ça horrible. Voilà, du coup, bon, elle réalise quand même ce qui lui est arrivé, hein, bref, mais les petits blocages sur des détails comme ça, ça fait mal au cœur, vraiment, ça fait extrêmement mal au cœur. Après, voilà, encore une fois, c'est bien qu'il y ait ces représentations-là, même si c'est pas facile à regarder, parce qu'il faut, hein, voilà, ça suit les mouvements sociétaux et tout, il faut. Mais c'est dur, c'est extrêmement dur à regarder. Voilà, mais c'est vraiment dur à dire comme phrase, voilà, je sais comment ça peut sonner, c'est pas du tout, bref, mon intention, mais effectivement, je trouve la manière dont elle met ces scènes-là en scène, justement, est absolument excellente, parce que on n'est pas dans le grossier, on n'est absolument pas dans le voyeurisme, on n'est pas du tout dans quelque chose qui peut être insultant, on est vraiment plus dans l'empathie qu'autre chose, voilà. Et je trouve que sa caméra, que ce soit en termes de distance ou même de zoom, hein, ou de focal par rapport au personnage et tout, je trouve que elle trouve vraiment le bon milieu, le bon endroit pour filmer. Mais voilà, on n'est pas du tout dans la grossièreté, dans quelque chose de gros, etc. On est vraiment dans quelque chose qui est retenu. Et en fait, c'est d'autant plus impactant au niveau du propos. Voilà. Et parce que ouais, justement, le contraste entre cet acte horrible qui est représenté de manière minimaliste, du coup, c'est vrai que ça fait en même temps travailler l'imagination et on veut pas. Moi, je suis toujours fasciné par ce genre de film qui arrive à être extrêmement impactant tout en montrant que très peu. Voilà, ça me fascine toujours et How to Have Sex ne fait pas exception. Vraiment, c'est un film que je trouve fascinant, qui a, je trouve, une forme plutôt déroutante voilà, pour les sujets que ça aborde. Mais voilà, bien évidemment, c'est un film à aller voir. Déjà parce que c'est simplement l'un des meilleurs films de l'année, hein, il a pas eu le prix à Cannes pour rien, et parce que les thèmes abordés, en fait, il y a très peu de films qui les abordent mieux que How to Have Sex. Je peux comprendre qu'on ait des problèmes avec la forme. Je trouve ça beaucoup plus difficile, par contre, de comprendre les arguments qui disent que le fond ne va pas et que c'est un film sans propos, qui n'a pas de fond, etc. Parce que c'est des choses que j'ai entendues. C'est des arguments que je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je dis pas qu'ils sont pas valables, hein, parce que c'est le ressenti des gens devant le film, voilà, chacun son ressenti. Je dis pas qu'ils sont pas valables, mais personnellement je n'arrive pas à comprendre, parce que je trouve que en termes de propos et d'écriture, c'est une des choses les mieux faites voilà, sur le sujet. Et donc pour ça, je vous recommande fortement le film. Voilà, on va arriver à la fin de cet épisode. Alors en conclusion, j'ai plusieurs trucs à dire. Déjà, je remercie les équipes de Macna Press pour avoir permis de découvrir ce film en projection presse, et un peu à l'image de mon épisode sur Eternal Daughter, je remercie bien évidemment l'équipe de Condor Film, voilà, qui est clairement l'un des meilleurs distributeurs à l'heure actuelle, voilà, du paysage cinématographique français, et en particulier Priscilla et Victor, voilà, de l'équipe de chez Condor. Rien à voir avec le film pour le coup, mais ça reste un remerciement, c'est vous remercier vous, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que le podcast était inactif, et pour autant l'épisode sur le Garçon et les Hérons, le dernier film de Miyazaki, a extrêmement bien marché, et je suis extrêmement content parce que c'est un de mes films préférés, c'est un des réalisateurs que j'apprécie le plus, Miyazaki, donc voilà, à l'heure actuelle il est quand même deuxième épisode le plus écouté du podcast derrière Mario, donc j'en suis voilà, extrêmement heureux et extrêmement fier, voilà, donc je tenais à vous remercier pour ça. Je vous avais dit aussi qu'il y aurait un épisode la semaine dernière, il y a peu d'épisodes la semaine dernière, je m'explique. En gros, l'épisode devait être sur le film Semble comme Sylvain, voilà, de Monia Chokri, et ça devait accompagner la sortie d'une interview de Monia Chokri, interview non pas de ce podcast, mais pour le média Et pourtant ça tourne, dont j'avais déjà dû parler, mais qu'on relance en fait, voilà, et donc on a eu la chance d'interviewer Monia Chokri. Le fait est qu'on a pris un peu de retard avec l'interview, avec le numéro, donc je voulais pas sortir d'épisode, parce que l'épisode il allait avec l'interview, c'était pour annoncer l'interview et le numéro, donc avec le retard, je voulais pas forcément en faire. Et j'ai pensé à le faire cette semaine, sauf que cette semaine, on a deux épisodes. Il y a How to Have Sex, et dans 2-3 jours, vous aurez un autre épisode sur un film qui est sorti ce mercredi 15 novembre. Voilà. Donc oui, il y a cette interview de Monia Chokri qui est dispo. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Si vous voulez entendre une autre vision, que, parce que c'est quand même radicalement différent, Ensemble comme Sylvain et How to Have Sex, mais il y a quand même ces thèmes de féminisme, etc. Pour ma part, voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir House of Sex. Et donc, pour ma part, je vous dis dans 2-3 jours pour un épisode sur le dernier film Hunger Games.